Cette partie, comment dire, j'y tiens particulièrement, notamment parce qu'elle fait écho à des pratiques aujourd'hui des économistes. Je vous mentirais donc si je disais que Walras, si tout le monde pense comme Walras à son époque. Une voie parallèle se dessine, qu'on a oubliée, parce qu'elle n'a pas gagné, en l'occurrence, j'y reviendrai, à la même époque. Vous voyez, on est dans les mêmes dates, 1871, je reviens sur Jevons, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme étant le fondateur du modèle standard, maximisation de l'utilité sans contrainte. Et un de ses disciples, très ami, que l'histoire a oublié, qui est sans doute un des esprits les plus brillants du XIXe siècle en économie, enfin le plus brillant en réalité, enfin mon sentiment n'a aucune espèce d'importance, c'est Francis Isidro Edgeworth, qui a écrit un petit ouvrage absolument obscur, si on le lit rapidement, mais si on passe du temps, ça peut aller, qui s'appelle « Psychologie mathématique ». Tous deux sont dans le même champ théorique que Walras. Ce sont des néoclassiques. C'est-à-dire que le but de leur théorie est aussi d'expliquer le fonctionnement des marchés à partir des comportements individuels, et notamment du modèle dit « standard ». Ils affichent néanmoins une conviction qui est un petit peu différente de celle de Walras, qui est celle selon laquelle une véritable théorie de l'économie ne pourra voir le jour, nous dit Walras, Jevons, on coupera, qu'en remontant aux sources de l'action humaine. Alors qu'est-ce à dire? Ça veut dire que Jevons pense que si véritablement on veut construire une théorie qui nous explique les comportements individuels et en quoi ils nous permettent de comprendre le fonctionnement des marchés, il faut remonter le plus loin possible. Et notamment, il faut remonter aux motifs de comportement. Qu'est-ce que nous cherchons dans l'échange? Est-ce que c'est bien une recherche de maximisation de l'utilité? Quels sont véritablement les fondements de nos comportements? Et la méthode que Jevons souhaite voir emprunter, c'est celle-ci. Alors la citation est particulièrement longue, ça peut être un petit peu rébarbatif, mais c'est une citation qui a des résonances, je trouve, absolument fascinantes avec la période contemporaine, notamment avec la neuroéconomie. Quand on la lit ensemble, on s'aperçoit que Jevons aurait probablement été peut-être, je ne sais pas, un neuroéconomiste, mais il aurait eu de la sympathie pour cette discipline. Que dit Jevons, qui écrit donc en 1877, à une période où les sciences physiques sont en plein effort, dit « Bon, la vie ne semble être rien d'autre qu'une forme particulière de l'énergie qui se manifeste dans la chaleur, l'électricité et la force mécanique. » Hypothèse, très forte à l'époque, il y a une forme d'unité de la matière, c'est-à-dire que contrairement à ce que racontait Descartes, mais je ne m'étends pas, il y a unité du corps et de l'esprit. Nos pensées, nos émotions, nos comportements sont une manifestation d'une même réalité qui est le comportement biologique, physiologique de nos cerveaux. On pourrait dire qu'il y a une biologie de nos passions, et Jevons le pense profondément. Bien. Et il fait référence à l'essor des sciences expérimentales de l'époque, en nous disant que, d'après lui, il semble presque le jour, ou presque ce jour arrivera presque, où le mécanisme délicat du cerveau pourra donc être réduit un fonctionnement où on calcule les poids déterminés de nitrogène, de phosphore, c'est-à-dire on pèse, on mesure, et on peut ramener nos pensées, nos émotions, à cette physique, à cette chimie, à cette physiologie de notre cerveau. Bon. Et Jevons, sans doute emporté par son enthousiasme, nous dit, ce même règne inexorable d'une loi établie dans les mouvements de la matière brute ne doit-il pas être étendu aux sensations subtiles du cœur humain? Bien. Alors, c'est un plaidoyer pour une méthode de l'économie qui consiste à dire, faisons appel aux sciences qui nous entourent, notamment aux sciences qui produisent éventuellement des résultats, psychologie par exemple, pour étendre un peu une logique comme scientiste qui consiste à dire qu'on va expliquer les comportements individuels en faisant référence à leur fondement psychologique, voire physiologique. Bien. Donc, encore une fois, c'est sans doute un raccourci que de dire ça, mais peut-être aurait-il souhaité faire de l'imagerie cérébrale s'il avait eu l'outil, probablement. Alors, il ne l'avait pas, bon, mais probablement, il aurait souhaité le faire. Son compère Edgeworth, qui pense la même chose, je ne vous abrutis pas de citation, lui avait rêvé faire une machine expérimentale qui mesurerait en permanence le plaisir ressenti. Son hypothèse, c'est que nous cherchons le plaisir dans l'échange, à le maximiser, et il rêve d'un hédonimètre, qui, donc, avec la racine grecque, qui mesurerait à chaque instant le plaisir que nous ressentirions. Bon. Alors je vois que ça fait sourire certains, mais il faut bien voir qu'on est dans une phase absolument fascinante, une période fascinante de l'histoire des sciences, où les lois de l'électrodynamique de la chaleur sont découvertes, c'est l'électricité, c'est la thermodynamique de Maxwell, on a le sentiment que la science n'aura aucune limite. Forcément, la science économique se constituant à l'époque, la tentation est grande de vouloir prendre le train en marche et de saisir cette opportunité d'une science allant toujours plus loin vers la découverte des mécanismes les plus intimes. Alors, s'ils en étaient restés à la pétition de principe, ça, je n'aurais pas parlé, parce qu'a priori, on peut tirer des citations de leur contexte et leur faire dire ce qu'on veut. Mais c'est mis en application. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'à l'époque, Jevons et Jowers avaient leur psychologue à disposition pour leur fournir des lois. Au même titre qu'aujourd'hui, on pourrait tirer de la psychologie expérimentale des méthodes et des lois qui nous serviraient pour étudier le comportement en situation économique. C'est une loi assez connue qui s'appelle la loi de Fechner, qui a été développée par Fechner en 1860, qui est une loi qu'on appelle une loi psychophysique, qui constitue l'acte de naissance de la psychologie expérimentale. Bon. Le but de Fechner, c'est de mettre en relation l'intensité d'un stimulus avec l'intensité d'une sensation. Bon. Par exemple, on soumet un individu à une lumière vive et on regarde la réaction de l'œil. Bon. On peut le faire aussi pour les poids. Jevons, économiste, fera même des expériences avec des poids et publiera les résultats. Dans un article qui passait totalement inaperçu, pour des raisons qu'on peut comprendre. On peut le faire aussi, notamment, pour, là, en l'occurrence, je suppose que vous l'aviez deviné ici, pour les sensations sonores. C'est-à-dire qu'ici, ce graphique montre, en fait, comment, si on augmente un niveau d'excitation sonore, on a un orchestre qui joue à 70 décibels, on rajoute un deuxième orchestre qui joue à 70 décibels, comment varie l'intensité de la sensation ressentie par les sujets. C'est mesuré en décibels, en l'occurrence. Je passe sur les détails techniques, sauf si vous voulez que vous souhaitez, je pourrais y revenir plus tard. Mais l'important, c'est qu'on a une loi qui met en relation une excitation, une sensation. Cette loi est fondée expérimentalement. Fechner ne l'a pas trouvée comme ça un matin en se levant, en l'imaginant et en la griffonnant sur un bout de papier. C'est le fruit de l'expérience en laboratoire et qui attire l'attention d'un économiste assez rapidement. Puisque, au prix d'un raisonnement analogique, certes un peu audacieux, mais faire de la science, c'est être un petit peu audacieux, on peut arriver à utiliser cette loi pour trouver une loi économique. Alors, comment on fait ça? C'est précisément ce que fait Jevons et ce que fait Edgeworth. Eh bien, considérons que l'excitation, c'est de la consommation de quantité de biens. Et oui, quand nous consommons un bien, nous ressentons de l'utilité, du plaisir, et donc, c'est un stimulus. Considérons que la sensation, c'est l'utilité ressentie. Eh bien, si vous permettez que je revienne un instant en arrière, je remettrai ce transparent, vous avez ici une courbe qui relie une quantité de biens consommés et une utilité ressentie, ici. Et ça vous donne une loi qui vous explique comment les individus vont ressentir l'utilité en fonction des variations de leur consommation. Et plus précisément, ça permet de dire ça, au niveau de l'interprétation. Si vous faites ce raisonnement analogique, et que vous pensez que la loi de Fechner s'applique à la consommation de biens, vous en déduisez que, quand vous augmentez les quantités de biens consommés, à chaque fois, votre satisfaction, votre utilité, augmente de moins en moins. On le voit ici. Si, par exemple, je passe de 20 à 30, j'aurai une augmentation d'utilité, si ça c'est d'utilité qui sera comme ça. Comme la courbe est décroissante, plus j'augmente par section de 10, par exemple, imaginez que ce soit des quantités de biens, plus j'augmente par tranche de 10, plus à chaque fois mon gain d'utilité est faible. Donc l'utilité augmente toujours quand je consomme des biens, mais elle augmente, disons-le, de moins en moins vite. Alors c'est une loi fondamentale pour les économistes, moins maintenant, on peut à peu près s'en passer, mais à l'époque on ne pouvait sans doute pas s'en passer. C'est une loi donc qu'on appelle la loi de l'utilité marginale décroissante, puisque l'augmentation d'utilité, le gain d'utilité, on appelle ça utilité marginale. Mais ça n'a aucune espèce d'importance de savoir réellement comment ça s'appelle. L'important, c'est qu'on a une loi qui explique comment varie l'utilité. Bien. Et, bien sûr, nos deux comparses, Jevons et Edgeworth, s'en saisissent. Edgeworth dira, bien, la loi de Fechner, loi de psychologie expérimentale, développée pour les, pour les sensations auditives, olfactives, lumineuses, etc., semble être la base de la loi de l'utilité marginale décroissante. Ici, on a très clairement un économiste qui, à la fin du XIXe siècle, part d'une démarche expérimentale, instrumentalise des résultats de la psychologie et fonde là-dessus eh bien, une loi de portée générale, qui est la loi de l'utilité marginale. On est, pour caricaturer, totalement à l'opposé de la démarche rationnelle, si vous vous rappelez ma définition de la démarche expérimentale. Et c'est important aussi, puisque cette loi produit des résultats. Je l'ai mis parce que ça me semble important. Cette loi apporte une explication à ce que nous appelons la loi de demande. Tout bêtement, cette idée que, par exemple, si on veut que les agents demandent plus de biens, il faut que le prix baisse. Ce qui est assez logique. Bon. Et pourquoi ça apporte un fondement? On le conçoit aisément. Imaginez que je vienne de faire un marathon de 42 km, 195, en plein été, et que les organisateurs étant légèrement déficients, je n'ai pas bu une goutte d'eau. Bien. J'arrive, ma première préoccupation, en dehors de regarder mon temps, les 5h27, eh bien, je veux consommer une bouteille d'eau. Bon, je consomme ma première bouteille d'eau, mon accroissement d'utilité, dit la loi, est important. Je vais en consommer une deuxième, mon plaisir augmente, mais il augmentait moins que précédemment. Et ainsi de suite. C'est la loi de Fechner appliquée à l'utilité. Imaginez que je doive payer pour les bouteilles d'eau. On me vend 4 bouteilles d'eau à la fin du marathon, je les paye 15 euros le tout, c'est très cher, hein, j'ai très soif. Bien. 4 bouteilles d'eau, je les paye 15 euros. Imaginons qu'un autre vendeur arrive et me propose une cinquième bouteille d'eau, toujours pour 15 euros. Je vais refuser, pour simplifier, caricaturer un peu le raisonnement. Moi, je crois que c'est vrai. Hein. Je vais refuser, pourquoi? Parce que je sais que la cinquième bouteille d'eau ne m'apportera pas beaucoup de plaisir supplémentaire. Ma soif est presque étanchée. Donc je ne suis pas prêt à payer aussi cher pour la cinquième bouteille d'eau, parce que la cinquième bouteille d'eau, c'est ici qu'on me l'apporte. Vous voyez? La cinquième bouteille d'eau, c'est là qu'on m'apporte. Mon utilité, si la sensation c'est l'utilité, augmente très peu. Et donc, je ne la payerai pas 15 euros, mais je serai peut-être prêt à la payer 5 euros. Et donc, je n'accepterai d'augmenter ma demande de bouteille d'eau que si le prix baisse. Et donc, la loi qu'on vient de voir permet de dire que la demande des individus est une fonction décroissante. La demande baisse quand le prix augmente, et la demande augmente quand le prix baisse. Et avec ça, vous expliquez le fonctionnement des marchés. Donc la boucle est bouclée. Là où Walras fait une théorie pure avec des types idéaux, enfin raisonnement, Jevons et Edgeworth partent de la psychologie expérimentale, prennent une loi, en tirent une loi générale, ici, et par conséquent, en tirent une explication à la loi de demande et donc au fonctionnement des marchés. Bon. Et puisqu'il s'agit de parler du mode de raisonnement des économistes, ici le mode de raisonnement, c'est une citation d'Edgeworth qui est un petit peu, non pas obscure, c'est une litote, où il nous dit que la subordination des phénomènes les plus complexes du marché, l'analyse économique, hein, l'analyse du fonctionnement du marché, sa subordination à de simples lois de sensation n'est pas sans intérêt. En fait, il pense que c'est ça qu'il faut faire, hein, et partir de lois expérimentales pour en déduire des comportements marchands et donc des comportements économiques. Bien. Alors, ce que je cherche à dire, c'est que le paysage était favorable à, dès cette période-là, au développement d'une méthode expérimentale. Alors, pour être tout à fait exhaustif sur cette question, enfin un peu plus exhaustif, la psychologie expérimentale dont je parle ne trouvait pas forcément grâce aux yeux de tous les psychologues de l'époque. Hein, c'était contesté. Donc il ne s'agissait pas de quelque chose d'unanimement accepté que les économistes auraient pu eux-mêmes récupérer à leur compte facilement. Mais néanmoins, dans les années 1930, beaucoup de psychologues se mettent à faire des expériences sur les comportements de consommation. Et les économistes n'y ont pas accordé beaucoup d'intérêt. La plupart des grands économistes de l'époque ont dit que ce n'était pas du tout pour eux important de savoir si les hypothèses formulées propos du raisonnement économique, et, enfin plutôt du comportement économique, si elles étaient fondées expérimentalement. Alors pourquoi ? Parce que ce mode de raisonnement que je vous montre ici, eh bien, ça a été un échec total. Bon, c'est pour ça qu'on l'a oublié. Un échec total, puisque entre les deux camps, pour grossir le trait, la méthode rationnelle et la méthode expérimentale, le camp qui a gagné, c'est le camp de la méthode rationnelle, majoritairement. Et ça, on le voit, et donc c'est ce que j'ai indiqué, en indiquant que la perspective de l'économie pure l'emporte dès la fin du XIXe siècle. On le voit à nouveau, il faut convoquer les auteurs, hein, c'est ce que fait un historien de la pensée. Vous avez vu la méthode de l'histoire de la pensée, on la voit, c'est convoquer les auteurs. Deux auteurs fondamentaux pour nous, qui sont Irving Fisher, qui écrit, c'est sa thèse, hein, il écrit ça, il a à peine 30 ans, et c'est resté dans l'histoire, qui écrit donc les investigations, enfin les recherches mathématiques sur la théorie de la valeur et des prix, et Vilfredo Pareto, qui a écrit plein de choses, mais notamment un manuel d'économie politique en 1909. Ils sont importants parce qu'ils sont le chaînon manquant entre Valras et un économiste standard d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il utilise les outils, les mathématiques, le modèle de choix rationnel, les courbes d'offres et de demandes. Ils ont, pour l'essentiel, forgé tout un tas d'outils qu'on utilise aujourd'hui pour enseigner le fonctionnement des marchés, pour enseigner ce qu'on appelle la microéconomie. Bon. On pourrait à nouveau faire un manuel de microéconomie uniquement en lisant ça. Bon, ça ne serait pas totalement idiot de le faire. Fisher et Pareto sont radicalement opposés à la méthode que je viens de vous exposer, c'est-à-dire la méthode qui consiste à partir de la psychologie expérimentale. Pourquoi ? D'abord, parce qu'à l'époque, Pareto considérera notamment ça, la psychologie expérimentale n'est pas une base solide. Pareto fait référence dans cette citation, justement, à la démarche que Jevons et Jaworth appellent de leur vœu, c'est-à-dire remonter aux sources de l'action humaine. Et Pareto nous dit, bien, si nous remontons aux sources de l'action humaine, nous serons d'accord pour dire que quand nous faisons des choix, quand nous faisons des actes, faire des choix c'est agir, ça dépend d'un certain nombre de causes, besoins, désirs, morale, justice, et on peut être d'accord là-dessus, difficilement contestable. Néanmoins, dès lors qu'on va commencer à vouloir trier entre les différentes causes fondamentales, les causes ultimes, nous ne serons jamais d'accord parce que la psychologie ne nous offre pas les éléments et les moyens de trancher entre nous et l'accord cessera. Or, Pareto veut, par-dessus tout, faire progresser la science économique et donc trouver les bases minimales d'une science qui serait reprise par d'autres et ses descendants qui pourrait se développer. Fisher dit à peu près la même chose, d'autres disent la même chose. On parle à l'époque volontiers de supputation philosophique, s'agissant des travaux des psychologues expérimentaux. Dont acte, je ne suis pas sûr que ça leur aurait beaucoup plu. Bien. Deuxième élément, alors c'est peut-être un trait de différence avec la période contemporaine. Deuxième élément, c'est même pas nécessaire. Il y a une citation de Pareto que j'aime bien. Je pense que c'est en partie du second degré, vu sa longueur, mais elle dit beaucoup de choses. Pareto nous dit, un économiste, ça explique un phénomène économique, le choix. Le choix rationnel, nous demandons ou nous offrons des biens. Prenons le vin du Rhin. C'est difficile à prononcer pour moi, mais on va essayer. Pareto nous dit, savoir si j'ai choisi du vin du Rhin parce que je préfère le vin du Rhin, ou parce que mon docteur me l'a prescrit, ou parce que je n'aime pas le vin ordinaire, ou bien parce que je veux déguster une bouteille avec un ami, tout ça, c'est la multiplicité des causes à propos desquelles nous ne serons jamais d'accord. Eh bien, Pareto nous dit, tout cela n'a finalement aucune importance. D'abord, nous ne serons jamais d'accord. Nous n'avons pas la science aujourd'hui qui nous permettent de trancher entre ces différents motifs. Et en outre, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi ? Parce que j'ai un modèle de choix rationnel qui explique le choix. De fait, si je suppose que les agents maximisent leur utilité, compte tenu du prix du vin du Rhin et de leurs revenus, je vais avoir une théorie déductive qui me fait apparaître le fait que ces agents, plus le prix du vin du Rhin sera élevé, moins ils demanderont. Or, manifestement, c'est plutôt ce qui se passe lorsqu'on observe les choix économiques. Donc, ce n'est même pas nécessaire de remonter aux causes fondamentales, puisque la théorie pure, celle que Valras lui a léguée, cette théorie pure explique le fait économique. Donc, ça coupe, vous voyez, ça coupe la racine sous l'herbe du pied des partisans de la démarche expérimentale. Et si on n'accepte pas, bien sûr, on verse à nouveau dans le champ de la démarche rationnelle. Bien. Dernière argument. Et c'est là où on revient toujours à qu'est-ce que le mode de raisonnement, qu'est-ce qu'un raisonnement économique pour eux. Bien, Pareto et Fischer reprennent le discours de Walras en l'amendant un tout petit peu, et en disant que, d'abord, l'économie doit être une science pure, donc on retrouve ici la définition de Walras, hein, c'est-à-dire un modèle abstrait, soumis à la méthode rationnelle. À ça, ils ajoutent une petite précision, une science positive. Et on retrouve, finalement, résumé l'argument de Pareto sur les causes ultimes. On doit se contenter d'observer les faits positifs, c'est-à-dire observables. J'achète du vin du Rhin, c'est ça qu'on doit expliquer. Quant à savoir pourquoi, ça n'a aucune espèce d'importance pour lui. Et le champ de la théorie économique, la réalité économique ne relève pas de ce genre de problématique. On doit renoncer à la recherche des causes ultimes. D'ailleurs, Fischer sera un peu plus long sur cette question, dira, nous laissons ça aux psychologues, que les psychologues développent leur science, qu'ils nous éclairent plus tard sur les motifs de comportement humain. Notre discipline n'a pas à se préoccuper de ce genre de problème. Et donc, très clairement, ça a tendance, ça se produit ça au début du XXe siècle, à asseoir la position de Walras, qui sera reprise, bien sûr, à quelques variations près, celle d'une théorie abstraite, non soumise à la vérification expérimentale, et qui part d'idéaux, de concepts purs. Bien. Alors, c'est, du coup, j'ai sauté une partie sans savoir que j'avais le temps, mais c'est pas très très grave. J'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc ne vous laissez pas abuser par le terme conclusion. Les conclusions peuvent être longues. Bien. Première chose, revenons un petit peu au début de ce que j'ai dit au début de la conférence et à ce que je viens de dire aussi à l'instant. Bon. D'abord, ce qu'on voit émerger au début du XXe siècle, c'est à l'évidence, sous la plume de Walras, puis ensuite les deux auteurs dont je viens de vous parler, Fischer et Pareto, bon, c'est une conception de la science qui est quand même assez peu propice, hein, assez peu favorable à l'adoption de la démarche expérimentale. Je pense qu'on peut le dire. Et de ce fait, ça répond en partie à la question que j'ai posée en préambule. Pourquoi a-t-il fallu attendre peut-être si longtemps pour que se produise, si ce n'est une symbiose, du moins des points de contact entre les démarches des psychologues et la démarche aujourd'hui d'un certain nombre d'économistes. Bon. En outre, et vous avez vu que finalement ces deux questions sont un peu liées, on a une séparation nette entre ce qu'on appellera maintenant économie positive et l'économie normative. Le normatif désignant encore une fois ce qui doit être. Et donc une séparation avec l'art et la morale. C'est-à-dire que ce qui est constant à partir du début du XIXe siècle jusqu'à cette période-là, le début du XXe siècle, eh bien, c'est qu'il est très clair qu'on a décidé, en théorie économique, de dire que se revendiquer économiste, c'est refuser l'idée qu'on énonce des préceptes pratiques et moraux. L'économie n'est ni une science morale, ni un art. Et ça, tous le pensent. Walras le pense aussi, sauf que Walras pense que on peut parfois être schizophrène, en fait, en réalité, avoir trois personnalités même, et changer de casquette, et faire de temps en temps de l'économie pure, de la science appliquée et de la science morale. Mais néanmoins, tous pensent que la définition même d'un économiste, c'est quelqu'un qui fait de l'économie positive, une science. Bon. Et la morale, notamment, sort totalement du champ. Alors, c'est un certain nombre d'implications très intéressantes sur lesquelles je peux m'attarder un tout petit peu. Je n'ai pas prévu de le faire, mais ça ne pose pas trop de difficultés. Par exemple, en économie, on cessera de se préoccuper des questions de justice que l'on peut inclure à peu de frais dans le champ de la morale. Par exemple, une question qui surgit assez vite dès lors qu'à partir du XIXe siècle, on décide de faire de l'économie une science de l'allocation des ressources par le marché. Il peut se trouver une situation où le fonctionnement du marché et les choix individuels eh bien, ont conduit à un état où les agents sont proches de la famine. C'est-à-dire qu'on peut mourir de faim. Il y a des formules comme ça des philosophes contemporains qui expliquent que dans une économie positive, on peut mourir de faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous arrivons au marché tous avec des dotations inégales, nous avons des revenus inégaux. J'ai peu de revenus avec moi, et je suis face à des échangistes qui ont des dotations initiales conséquentes. Quelles que soient les modalités d'échange, le mode de fonctionnement de l'économie, il est probable qu'une fois que nous ayons échangé, parce que je n'ai qu'un type de bien et eux ont un autre type de bien. Nous voulons échanger. Eh bien, j'aurai pas beaucoup de biens et probablement moins de biens que la personne très bien dotée qui a échangé avec moi. Mon pouvoir dans l'échange est relativement faible. De sorte que on peut partir d'une situation initiale où les ressources sont inégalement réparties, par exemple, et arriver à une répartition des ressources par l'échange très inégale. Mais on peut même d'ailleurs imaginer des agents très maladroits dans la négociation marchande. Et on est tous partis avec les mêmes dotations, et certains, parce qu'ils ont des déficiences, ils sont maladroits, ils sont trop gentils, un peu altruistes, eh bien, ont beaucoup moins de biens à l'issue de l'échange que d'autres. Et donc, en clair, la question qui surgit assez vite, c'est la question des inégalités, qui serait le produit de l'échange. Un économiste, en tout cas standard au XXe siècle, refusera de se prononcer là-dessus. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas dans l'économie, l'économie qui a été adoptée par 90% de la discipline au XXe siècle, quelqu'un qui vous expliquera que, parce qu'une répartition par le marché s'est avérée très inégale, il faudrait la compenser. On refuse de faire ça. Pourquoi refusons-nous, en tant que communauté, nous refusons de faire ça, enfin la discipline a décidé de refuser de faire ça au XXe siècle, parce que faire ça, c'est d'emblée avoir un discours non seulement prescriptif, mais normatif. Au nom de quoi, au nom de quels critères de vérité, j'intimerai à certains l'ordre de renoncer à une partie de leurs ressources, après fonctionnement du marché, au motif qu'il y aurait des inégalités. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, d'après ces auteurs, puisqu'il faut sortir en réalité du champ de l'économie positive et aller dans le champ des recommandations, et même plus loin, aller dans le champ où on définit ce qui est bien, c'est-à-dire la morale. Dire nous devons compenser les inégalités après répartition marchande, on peut le dire. Mais les économistes au XXe siècle, pour une partie, pour la très grande partie, considéreront que ce n'est pas l'objet de la théorie économique. Encore une fois, c'est lié, me semble-t-il, au fait qu'on considère que dans le spectre des sciences, l'économie doit trouver sa place dans la démarche rationnelle et dans la recherche de la vérité et dans la description de ce qui est et non pas de ce qui doit être, qui est un choix historique. On aurait pu décider autre chose. Bon. Alors ça, ces conséquences-là. Bien. Maintenant, revenons à nouveau au début de la conférence et donc là, j'en ai fini avec ce que je projette et à la question que j'ai posée. C'est-à-dire, pourquoi maintenant, et ça sera développé en partie dans les conférences suivantes, je suppose, pourquoi maintenant assistons-nous à un essor sans précédent de la démarche expérimentale en économie? Là, pour l'instant, finalement, je n'ai fait qu'exposer des raisons pour lesquelles ça n'avait pas été plus tôt. Mais ça n'explique pas pourquoi ça a été maintenant. C'est-à-dire que nous sommes sortis de cette conception, en partie, de l'économie comme une théorie abstraite. Pure. Alors là, je ne peux faire que des hypothèses. D'ailleurs, je n'ai fait que des hypothèses devant vous. Elles sont de deux ordres. La première, c'est que l'économie comme branche des mathématiques, ce que nous a dit Walras, là, c'est un fait. On peut le constater dans ce qui a été produit scientifiquement en économie au XXe siècle, s'est heurté à un certain nombre de résultats négatifs. C'est-à-dire que, à force de raffiner l'économie comme branche de mathématiques, on a bien sûr préciser de plus en plus les conditions pour obtenir des résultats, pour obtenir un équilibre général, je ne rentre pas dans le détail, mais des conditions mathématiques. Et on est arrivé à un niveau de recherche tellement élevé, notamment à la fin des années 50 et au début des années 60, tellement élevé dans la branche pure de l'économie, l'économie mathématique, que fatalement, avec des économistes mathématiciens aussi doués, on a fini par tomber sur des mauvais résultats, c'est-à-dire des incohérences. Bon, notamment, pour le dire en un mot, l'équilibre général dont Walras parlait, c'est-à-dire cette situation où, à un moment donné, on arrive à un état où l'offre est égale à la demande sur tous les marchés et tout le monde est satisfait, maximum d'utilité, on sait à peu près aujourd'hui que les conditions mathématiques pour que ça fonctionne ne sont pas réunies. Je passe sur les détails, mais les théorèmes très négatifs qui ont un peu scellé le sort de, pas de l'économie mathématique, mais de cette, pas de fuite en avant non plus, mais cette recherche effrénée de résultats toujours plus raffinés dans le domaine de la théorie pure. Bon, mais il y a une autre raison qui est sans doute plus essentielle. C'est tout simple, c'est que beaucoup de paradoxes se sont accumulés au XXe siècle. On vous en parlera peut-être dans les autres conférences. Je ne sais pas si Marc Lerival vous en a parlé, mais il y a dans l'étude des comportements individuels en général et des comportements économiques en particulier, on a, à partir des années 50, trouvé beaucoup, pas mal de paradoxes et de situations, en gros, où les agents ne se comportent pas conformément, donc, ne se comportent pas conformément au modèle du choix standard. Bien. C'est-à-dire qu'on a accumulé les anomalies. Or, au XXe siècle, dans le domaine de la méthodologie, se sont développées deux idées, hein, me semble-t-il. La première, c'est quand une science commence à rencontrer de plus en plus d'anomalies, c'est-à-dire quand le modèle standard, par exemple, est de plus en plus mis à défaut, eh bien, on en vient à remettre en cause le noyau dur de la science. Au début, on peut expliquer ça par des comportements, disons, aléatoires, à la marge. Mais à force d'accumuler des contre-résultats, c'est-à-dire des résultats contradictoires au modèle standard, on a fini par se dire qu'il faudrait peut-être revisiter le modèle standard lui-même, la brique fondamentale. À ça, s'est ajoutée une deuxième conception, nouvelle au XXe siècle, c'est qu'une proposition économique est retenue, non pas parce qu'elle est vérifiée, mais parce qu'elle n'a pas encore été réfutée, ce qui est très important. C'est-à-dire que tous les auteurs que je viens de vous exposer sont ce qu'on appelle vérificationnistes. Pour détecter ce qu'est la science, on va supposer que le critère, c'est la vérité. Est-ce qu'une proposition est vraie ou fausse ? Au XXe siècle, on va commencer à penser qu'une loi économique, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mise à défaut, qui n'a pas encore été réfutée. Bien. Or, le modèle standard, ayant été de plus en plus mis à mal par un certain nombre de contre-résultats, de résultats paradoxaux, dont on vous parlera probablement, eh bien, on a considéré que de plus en plus, il était en train d'être réfuté par l'expérience, c'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus contredit. Et ça, me semble-t-il, cette accumulation de paradoxes et ce changement en matière de critères de scientificité, hein, dès lors qu'une loi est invalidée, on en vient à l'idée qu'elle n'est sans doute pas une loi scientifique, je pense que ça a en grande partie contribué à l'émergence aujourd'hui, dans une partie de la discipline, de cette économie comportementale et de cette neuroéconomie. Mais elle est, si on doit l'ancrer dans l'histoire de la discipline et dans les grandes orientations méthodologiques qui ont été prises, elle est, me semble-t-il, à l'opposé de la méthodologie des pères fondateurs, hein, qui eux étaient plutôt pour la méthode rationnelle, alors que maintenant, on aurait plutôt tendance à verser dans la méthode expérimentale. Bien. Donc il est 15h55. J'ai un peu raccourci, je pensais vraiment être en retard, mais peut-être que c'est le moment pour que vous posiez des questions si vous souhaitez le faire. Ou surtout des éclaircissements, peut-être.
J'aurais une question à propos.
Je vous en prie.
Vous venez de dire donc, que le modèle standard avait été très mis à mal dans les années 50 et que nous, on avait assisté à l'émergence d'un modèle plus pragmatique et expérimental. Est-ce qu'il y a des propositions pour créer un autre modèle standard, ou bien est-ce qu'on a mis de côté cette idée et qu'on se concentre uniquement sur un résultat optimal?
Malheureusement, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Votre question, si je la comprends bien, c'est est-ce que finalement, à force de coups de boutoir, est-ce qu'on n'a pas fini par dessiner un modèle alternatif qui aurait un certain degré de généralité? C'est ça que vous voulez me dire, non? Ouais. Pour autant que je sache, non. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui assez bien identifié des situations, des environnements dans lesquels on saura qu'on aura des résultats paradoxaux. Et on a à peu près expliqué pourquoi. La théorie des jeux fait ça très bien. Par exemple, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais la théorie des jeux fait ça assez bien, où des agents qui sont mis en présence les uns des autres vont prendre des décisions sous-optimales, souvent pour des raisons de déficit d'information. C'est-à-dire que, bon, par exemple, un jeu qu'on connaît assez bien, qui est le dilemme du prisonnier, fait ça assez bien, où deux individus qui sont dans deux pièces séparées, on leur propose, ils sont tous les deux inculpés d'un crime, enfin, ils sont poursuivis par la police, et on leur demande d'avouer un méfait, bon, et on leur donne un degré de peine probable, suivant qu'ils avouent, en supposant que l'autre n'avoue pas, etc. Et en fait, on montre assez bien qu'ils prennent une décision sous-optimale. C'est-à-dire qu'ils auraient intérêt, par exemple, à la collaboration, mais en absence d'informations communes, ils ne le font pas. Et donc, on a bien identifié, dans la théorie des jeux notamment, mais probablement en économie expérimentale aussi, des situations où on sait qu'il y aura des situations paradoxales, et on arrive à les expliquer. Mais il ne me semble pas, au jour d'aujourd'hui, qu'on ait dessiné un paradigme alternatif, une théorie alternative, qui aurait le degré de généralité qu'avait le modèle standard. Alors, j'en veux pour preuve, l'argument est un peu fallacieux, je l'admets, mais après tout, autant l'utiliser. J'en veux pour preuve le fait que, dans l'enseignement de l'économie, qui à mon avis est un bon thermomètre de l'acceptation d'une connaissance commune dans la discipline, le modèle standard reste quand même ce qui est enseigné dans les trois premières années universitaires. Donc je me dis que si vraiment aujourd'hui, je ne sais pas si ça répond à votre question, on avait un modèle alternatif, un tant soit peu général, et qui constituerait une nouvelle brique qu'on substituerait au modèle standard, je crois qu'on l'utiliserait avec plaisir. Et cette question est très intéressante parce qu'elle aborde un aspect que je n'ai pas développé, que j'aurais pu développer, c'est la question du degré de généralité. C'est-à-dire que Valras dira, lorsqu'il parle de ces types idéaux, que lorsqu'on fait la loi de la science, c'est d'accepter de voir le cas général et de reléguer au second plan les cas particuliers. Et l'un des prix à payer pour le renoncement au modèle standard, c'est peut-être le degré de généralité de nos explications en tant qu'économistes. Mais le prix à gagner, c'est la gamme des explications qu'on a dans tout un tas de situations. Ça vous sera dit dans les conférences qui suivront. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations, notamment économiques, où on arrive à expliquer les comportements là où le modèle standard est totalement silencieux. J'espère avoir répondu en partie à votre question.
J'incitais plutôt à une remarque, c'est que la méthode rationnelle dont vous avez parlé a rejeté la psychologie expérimentale. Ouais. En fait, elle a conservé quand même la loi de l'utilité marginale décroissante.
Donc, oui et non. Très bonne question.
C'est pas fait dessus quand même.
Non. Elle ne l'a pas conservée.
Elle ne l'a pas conservée.
Non. Elle ne l'a pas conservée. Bon, j'ai un peu écrit. Valras l'utilise. Valras l'utilise, mais assez peu, à vrai dire. Il l'utilise pour déduire des fonctions de demande. Bon, mais il l'utilise. Mais Fisher et Pareto, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont totalement supprimé la loi de l'utilité marginale décroissante de la théorie. D'ailleurs, c'est une bizarrerie aussi de ce qu'on raconte parfois nous aussi en cours, c'est qu'on continue à donner cette hypothèse, alors qu'en réalité, elle a été balayée du revers de la main par les premiers microéconomistes, pour aller vite, Fisher et Pareto, et elle n'est absolument pas nécessaire pour élaborer une théorie du choix. Bon. Alors, il la réfute pour deux raisons. D'abord, pour les raisons que vous avez suggérées, c'est-à-dire que l'absence de fondement psychologique acceptable de cette loi, mais aussi parce qu'elle suppose de mesurer l'utilité. C'est-à-dire que pour dire que... J'aurais peut-être pas dû... j'ai perdu mon point de vue, mais c'est pas très important, mais ça doit répondre... Je sens que votre question a un arrière-fond un peu de... En fait, pour... si vous me permettez... En fait, pour tracer ça et dire que les accroissements sont de plus en plus faibles, il faut mesurer les accroissements. C'est-à-dire qu'il faut dire, quand je passe d'une bouteille d'eau à deux bouteilles d'eau, de quelle utilité je pars, pour quelle utilité j'arrive. Et seul ce calcul permet de dire que quand je passerai de 3 à 4, la différence sera plus faible. Et donc il rejette aussi ça. Mais il rejette la mesure de l'utilité, parce que l'utilité n'est pas expérimentalement mesurable. Voilà.
D'accord. Donc par la suite, ça a été abandonné. Ça.
Abandonné. On a substitué à cette loi une autre loi qu'on appelle la décroissance du taux marginal de substitution. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, c'est ça. Ça a été fait dans les années 30 par X, qui est un peu le descendant spirituel de Pareto et de Fisher, et John X qui fait ça dans les années 30 avec Richard Allen, sont peut-être ceux qui mettent le point final à la microéconomie standard, au modèle de choix rationnel. Et ils prennent une autre hypothèse, qui est de dire que ce qu'on regarde, c'est plutôt les proportions dans lesquelles nous sommes enclins à échanger les biens. Eh bien, si je possède beaucoup d'un bien, la quantité que je suis prêt à en donner pour obtenir un bien que je ne possède pas est assez importante. En revanche, quand je commence à posséder moins de ce bien que je possède initialement, ma propension à en donner pour obtenir toujours l'autre bien dont je ne dispose pas est moins grande. Et on a un taux marginal de substitution qui est décroissant. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que...
Il y a peut-être des auteurs qui quand même créent des ponts avec des comportements pas très rationnels. Enfin, je pense que John Maynard Keynes, quand il se promène avec ses esprits animaux, avec des comportements mimétiques, il ouvre une porte. Ouais. Je pense que les économistes autrichiens, quand ils parlent de la concurrence avec beaucoup d'erreurs, la difficulté à s'approprier et à traiter de l'information, ou montre encore que là, les comportements ne sont, sont pas simples. Et puis je pense à Alfred Marshall. Finalement, ces histoires d'équilibre partiel, ça ressemble beaucoup à des rapports de force qui peuvent s'instaurer. Et là encore, les comportements changent selon les types de rapports de force qui peuvent se créer. Donc, j'ai l'impression qu'on a tenté à différents moments en économie quelque chose et que ça avorte un peu. C'est-à-dire que toutes ces tentatives-là se perdent et qu'il y a une espèce de force. À mon avis, le vrai mystère est plutôt, c'est vrai que c'est le modèle qu'on enseigne. C'est vraiment vrai. Tous ces morceaux, même quand ils sont apparus, qu'ils ont réussi à les formaliser, je veux dire que la théorie générale, quand même, c'est un certain monument dont on va parler, n'arrive pas, en effet, sur ce plan-là, à nous amener une explication convaincante d'économistes de cette faible rationalité des comportements, qu'il va falloir qu'une autre branche les bloque, l'économie comportementale, pour y arriver. Je ne sais pas si...
Bon, j'en ai pas parlé parce que, comme tu l'indiquais, c'est des tentatives qui prennent quand même parfois racine, hein, parce qu'il y a quand même des post-keynésiens, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu le succès qu'a eu le modèle standard lorsqu'il est incorporé à la théorie de l'équilibre général. Oui. Donc j'en ai pas parlé parce que j'ai voulu... Bon, ma démarche était très rétrospective, hein, vous l'avez bien vu. Hein, donc c'est une démarche que j'adopte en tant qu'historien de la pensée. Certains collègues ne sont pas d'accord. Je lis le passé à la lumière de problématiques présentes, quoi. Et il y a une espèce de jeu intellectuel à partir de ces questions d'économie comportementale et donc ce choix rationnel. Bon, mais donc je n'en ai pas parlé. Mais néanmoins, ça ne prend pas, je crois, c'est pas si mystérieux que ça. C'est-à-dire que, sans être trop long là-dessus, le modèle d'équilibre général de Walras a ce que moi j'appelle une plasticité formidable. C'est-à-dire que le modèle dont on a parlé, c'est-à-dire choix rationnel, maximisation de l'utilité, et puis ça permet d'expliquer le fonctionnement du marché. Finalement, ça n'explique pas grand-chose. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé de la monnaie, je n'ai pas parlé de la croissance, je n'ai pas parlé du phénomène de la production agricole, on a parlé d'assez peu de choses. Et ce modèle a une capacité au XXe siècle à absorber des éléments hétérogènes absolument sidérantes. C'est-à-dire que personne, aucun autre courant théorique n'a proposé un modèle qui a un degré de généralité tel qu'on arrive, à chaque fois qu'on se pose une question nouvelle, à lire cette question à l'intérieur du modèle. Typiquement, la monnaie, qui est un vrai problème pour les économistes, pour un certain nombre de raisons, le modèle d'équilibre général a su s'en saisir. Bon. Et encore une fois, je crois que c'est lié aussi après à l'usage de l'outil mathématique et au degré de généralité des résultats et à la capacité d'expliquer des faits stylisés. La loi de demande reste quand même un fait stylisé relativement avéré. Bon. Je pense que ça répond qu'en partie à... Il y a eu des tentatives, mais on ne peut pas dire qu'elles aient pris vraiment corps, puisque... Quand on fait, encore une fois, c'est un bon exemple, quand on se pose la question de ce qu'un économiste qui suit une formation universitaire doit recevoir comme enseignement, la tradition autrichienne est proprement évacuée. Keynes est présent à travers la macroéconomie, mais les esprits animaux de Keynes, on en parle lorsque vraiment on a deux minutes à la fin d'un cours. Enfin, je ne sais pas ce que tu en... Bon. Alors cela dit... Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé qui pourrait introduire une confusion, hein, question que je me pose à moi-même, c'est que je n'ai pas voulu suggérer, à travers cette présentation, que tout au long du XXe siècle, l'économie n'avait aucun lien avec la réalité. Alors, il y a la macroéconomie quand même, c'est-à-dire que les économistes se préoccupent de réalité économique. Mon propos était de dire que dans la phase de raisonnement et de construction du modèle, on ne part pas, hein, d'une relation directe à l'empirie et à la réalité. Après, il y a des orientations un peu différentes sur, et j'en ai parlé à demi-mot, sur la question de savoir est-ce qu'on peut appliquer la théorie économique en tant que art. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer à la phase précepte-pratique. Keynes, c'est ce qu'il faisait. Bon, Walras acceptait de le faire, d'autres refusent de le faire. Donc, il y a un rapport à la réalité. Walras acceptait l'idée qu'on utilise son modèle pour transformer une réalité imparfaite. Mais ce qui est d'ailleurs aussi, si je peux me permettre de continuer là-dessus, un renversement de perspective assez sidérant. C'est-à-dire que le schéma walrasien et néoclassique à l'époque, c'est on fait un modèle pur idéal comme un outil pour agir sur la réalité. C'est-à-dire comme un spécialiste de la physique penserait que sa théorie peut être appliquée pour faire les chemins de fer. Bon. Il y a un renversement de perspective qui consiste aujourd'hui à partir peut-être d'identification de problèmes pratiques et construire une théorie à partir de ça. Mais je grossis le trait. Hein.
Excusez-moi. Oui, j'ai lu récemment qu'en fait que le modèle dont vous parlez, fin des années 50, là, qui a remis en cause l'équilibre général, je crois que c'est Arrow et Debreu. J'ai lu quelque chose à propos d'Arrow et Debreu, qui effectivement montre qu'il y a des conditions pour que ça fonctionne qui ne sont pas réalisées dans la réalité. Mais il y a aussi des conditions, j'ai vu, c'était l'existence de marchés à terme pour tous les biens et services. Oui. Est-ce que ça ne serait pas normatif, ça, justement, parce que n'existant pas beaucoup dans le monde réel?
C'est l'exemple, c'est un très bon exemple. Alors, c'est un très bon exemple qui est lié à la question précédente. C'est-à-dire que, bon, les deux auteurs dont vous parlez, Arnaud Debreu, au départ, sont plutôt des, alors pas des continuateurs de Valras, mais des gens qui poursuivent le travail de raffinement mathématique, surtout Debreu, de la théorie de l'équilibre général. Bien, donc au départ, ce sont plutôt des gens qui essayent d'enrichir la grammaire de l'équilibre général. Et notamment, un des apports de Debreu, c'est d'incorporer la question du temps. C'est-à-dire que le modèle d'équilibre général, je viens de dire qu'il avait cette capacité à absorber plein de choses, et notamment, dès lors qu'on met du temps, c'est-à-dire une période T plus 1, T plus 2, T plus 3, comment fonctionne le modèle? Alors c'est très compliqué, parce qu'il faut supposer que les agents font des choix aujourd'hui en connaissant plus ou moins bien ce que sera le revenu de demain. Il y a des problèmes de cohérence temporelle des choix. Bon. Et donc, l'intégration du temps dans la théorie économique est un vrai défi en général, et plus particulièrement dès lors que vous avez un modèle de choix. Quand je fais mes choix de maximisation de l'utilité aujourd'hui, qu'est-ce que je prends en compte en réalité? Est-ce que je vais sortir d'ici, je vais m'apercevoir qu'il pleut et je vais acheter un parapluie? Bon. Mais est-ce qu'on ne doit pas expliquer aussi le fait que je n'achèterai pas le parapluie aujourd'hui parce que j'anticipe qu'il pleut demain et qu'en réalité, je diffère ma consommation de parapluie et j'ai un comportement de demande demain? Vous voyez, bon. Et Debreu va introduire l'idée de marché complet. Ce qui veut dire que, là, c'est plutôt l'exemple de théorie pure. On va supposer que, dans le futur, à toutes les dates possibles, il existe un marché pour tous les biens. C'est-à-dire que la théorie n'explique pas seulement, par exemple, l'achat de parapluie sur le marché du parapluie aujourd'hui quand il pleut, mais on suppose qu'il y a un prix du parapluie dans 3 semaines, quand il pleuvra uniquement sur la presqu'île. Et donc, on a une complétude, il y a un prix pour tous les états du monde. Et au contraire, ça a tendance à élargir la portée du modèle en disant le modèle est capable d'expliquer des choix intertemporels. Bon, là, j'ai caricaturé, parce que j'ai une tendance à la provocation que, malgré toute la dose de sérieux que j'essaie de mettre, je n'y arrive pas, mais plus sérieusement, ça explique très bien l'émergence des marchés à terme. C'est-à-dire qu'on achète du blé demain, et objectivement, le prix du blé dans 3 mois est connu. Et on intègre ça, et ça explique très bien les comportements d'épargne et d'investissement. Bon. Donc là, c'est plutôt une phase de contribution à la théorie. Mais ensuite, c'est Arnaud et Debreu, et d'autres, qui dans les années 70, vont trouver, deuxième phase, des résultats négatifs. Qui, eux, vont pas sceller le sort, mais qui vont détourner beaucoup d'économistes, dont un, d'ailleurs, interviendra, je ne sais pas si Alan Kerman a confirmé sa présence. Ouais. Il faisait la théorie de l'équilibre général il y a maintenant quelques temps, et il s'est détourné, plus ou moins, la théorie de l'équilibre général, et c'est un très grand économiste, et il s'est détourné la théorie de l'équilibre général, et il s'est plutôt consacré à l'étude de marchés particuliers, à des comportements sur les structures de marchés particuliers. Alors pourquoi ces gens-là, donc des grands contributeurs à la théorie de l'équilibre générale, se sont détournés? Parce qu'il y a eu des résultats négatifs, notamment cette idée qu'on n'est jamais sûr, compte tenu des préférences des individus, des utilités individuelles, que la composition des comportements individuels fera apparaître des fonctions de demande qui sont bien décroissantes. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a perdu la généralité du théorème. Valras pensait que si l'utilité marginale est décroissante, les demandes sont forcément décroissantes, et il suffit qu'en fait, avec une demande décroissante, de la couper avec une offre croissante pour avoir un équilibre. Or, le raffinement mathématique a démontré que les conditions pour que la demande soit bien décroissante, elles ne sont jamais réunies. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir, il faut qu'elles soient très 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 précises. Et donc on n'est jamais sûr d'obtenir un équilibre général. Enfin, c'est à peu près ça. Et je pense que ça explique en partie l'essor de l'économie comportementale. L'idée qu'on est arrivé, pas au bout peut-être, mais à une étape où le raffinement mathématique et la recherche pure s'essoufflaient en raison d'une généralité qui n'arrivait plus à croître. Voilà.
Est-ce que ces théories économiques sont liées à notre civilisation occidentale? Et est-ce qu'avec le développement des civilisations asiatiques, des populations asiatiques, et Japon, la Chine et autres, est-ce qu'il n'y aurait pas une remise en cause éventuellement de ces théories appliquées localement, que ce soit à cause des gens ou à cause de la langue, à cause des raisons de l'histoire, de la civilisation, etc.
Bon, c'est une question intéressante. En préambule, je vous dis tout de suite que je ne peux pas avoir la présomption d'y répondre. Hein. C'est parce qu'elle est trop, non pas trop vaste, mais elle implique plein d'éléments. C'est des théories occidentales, oui. Alors c'est des théories occidentales parce qu'elles elles sont nées, si on repart vers les auteurs que j'ai présentés au début, Smith et Ricardo, ce sont des théories qui sont nées à la suite d'un événement historique, qui est la révolution agricole, qui elle-même a entraîné la révolution industrielle, qui a dégagé la révolution agricole a dégagé des surplus de main-d'œuvre pour l'industrie, développement de l'industrie, accumulation du capital et nécessité d'une théorie du capitalisme. Bon, donc c'est très lié d'abord à une ère géographique très particulière. Vous avez vu, j'ai parlé quasiment que d'économistes anglais au début, c'est pas un hasard, hein, et après un peu d'économistes français. Donc c'est très lié localement, enfin très lié à une période de l'histoire et à une zone géographique très particulière. Alors, à la même époque, la pensée dans les autres régions du monde, j'avoue être une ignorance crasse en la matière, on peut trouver, hein, mais hors du monde occidental, il y a assez peu d'éléments. Alors maintenant, votre question, c'est est-ce que des cultures différentes, des modes de pensée différents n'impliqueraient pas une autre façon de construire les modèles? Probablement. Il m'est arrivé de lire... Il y a des livres, hein, notamment en théorie des jeux, sur la façon de jouer des stratégies optimales en Asie par rapport à ce que ça peut être le cas dans l'Occident. C'est très souvent lié historiquement à l'art de la guerre. Par exemple, la pratique de l'art de la guerre en Asie et en Occident n'est pas la même. Donc il y a des différences culturelles qui pourraient servir de base à des modes d'explication des comportements un peu différents. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, pour autant que je sache, ça n'a pas donné lieu à l'émergence d'une théorie non occidentale. Enfin, c'est pas ce que vous vouliez dire, mais...
On a beaucoup transposé,
oui.
Que ce soit par l'éducation des gens d'Asie, par exemple,
ouais.
Ou par leur façon de vivre, enfin la façon de vivre
occidentale,
on a beaucoup transposé. Donc c'est normal que les théories économiques de l'Occident se retrouvent actuellement vérifiées sur le comportement des consommateurs riches chinois, par exemple. Mais si on extrapole à 20 ans ou à plus, où il y aurait peut-être une certaine autonomie de pensée, et autonomie, disons, de la civilisation chinoise ou japonaise ou autre, est-ce qu'on peut penser qu'on pourra toujours transposer nos théories économiques?
Alors là, vous demandez de faire quelque chose que Senior m'interdisait de faire. Mais je ne me suis pas engagé personnellement auprès de lui à tenir cet engagement, donc je peux m'y risquer. C'est pas le métier d'un historien de la pensée de répondre ça, c'est plutôt le métier d'un économiste en général, mais je le suis. Bon, la question que ça pose, c'est finalement le caractère agrégatif ou intégrateur du système de l'économie de marché. C'est-à-dire que les modes de consommation, les modes de régulation marchande en Asie sont aujourd'hui ce qu'ils étaient dans le monde occidental quelque temps, c'est-à-dire un développement de l'économie de marché. Et la question que vous posez, c'est est-ce que ça informe les comportements au sens littéral du verbe informer ? C'est-à-dire, est-ce que ça va donner naissance à des comportements qui seront eux aussi finalement une transposition culturelle ? Ou est-ce que il y aurait des spécificités locales ? Honnêtement, je ne peux pas prédire l'avenir. Personnellement, ma conviction intime, mais qui n'est fondée que sur ma conviction intime, donc je n'ai pas plus de voix au chapitre que quiconque en la matière, c'est que je pense que ça informe au sens littéral du terme les comportements. Je pense véritablement que l'extension de la logique marchande implique que les gens adoptent des comportements qui répondent à cette logique et des comportements, si ce n'est de maximisation de l'utilité, mais de recherche de l'intérêt bien compris. Bon. Mais tout le monde ne serait pas d'accord, parce que la thèse qui est plutôt majoritairement partagée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le système de l'économie de marché serait né parce que l'homme serait naturellement égoïste. C'est ce que raconte Smith. Smith nous dit, nous avons une propension naturelle à échanger, et nous sommes naturellement... Alors il dit self-love, l'amour de soi, ce qu'on a traduit par égoïsme. Ça peut se discuter, mais bon, pas faire de l'exégèse. Mais nous sommes naturellement égoïstes, et nous avons naturellement une propension à échanger. Et c'est ça qui a conduit, par un cheminement historique assez long, à l'adoption d'un régime de propriété privée. Bon, donc, vous savez... La question, c'est où est la poule et l'œuf ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'économie de marché qui transforme les comportements ou est-ce que c'est une nature humaine naturellement intéressée égoïste qui fait advenir, quoi qu'il arrive, les communes de marché? C'est pas votre question, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu votre question quand même. Ma conviction, c'est que le pouvoir agrégatif quoi, de l'économie de marché est assez puissant. Bon. Mais c'est ni une prophétie de Cassandre, ni un vœu de ma part. Hein. C'est un sentiment. Ça a été enregistré, ça?
Et alors, justement, pour continuer là-dessus, vous venez de te dire, donc, on a posé, au sens mathématique du terme, le postulat que l'homme est égoïste, il est porté à échanger. Alors, n'y a-t-il pas là, justement, dans cette conception mathématique de l'économie, un certain nombre de postulats qui ne sont pas dits? Après tout, il y a un tas de théories mathématiques qui, en tant que mathématiques, se valent toutes les unes les autres, sauf qu'il y en a une seule qui correspond à notre réalité tangible.
Oui, mais ce que vous dites, c'est que pourquoi accepte-t-on, enfin, à quel titre devrait-on accepter cette idée que, comme type idéal, enfin comme concept pur, il y a cette idée que nous sommes naturellement intéressés uniquement par notre propre personne. Et on pourrait tout aussi bien supposer autre chose. C'est ce sentiment que c'est... Mais ma réponse, c'est que oui, probablement. Alors, c'est en partie ce que fait l'économie comportementale. Hein, c'est-à-dire que ce qui sera développé, d'après ce que j'ai pu en comprendre dans d'autres conférences, c'est que c'est une discipline qui permet aussi de comprendre pourquoi parfois nous sommes altruistes, pourquoi nous avons des normes morales. Pourquoi nous avons des comportements qui visent à prendre en compte l'intérêt de l'autre. Donc déjà, mon premier élément de réponse, c'est qu'une branche aujourd'hui de l'économie a tendance justement à considérer qu'on ne doit plus prendre cette hypothèse comme un fait acquis. Bon. Mais pour ce qui est de la théorie que je vous ai présentée, je fais un travail d'historien, je ne fais que répéter ce que disent les autres et l'organiser, c'est tout. Enfin, un peu plus que ça peut-être, mais justement, ce dont ont essayé de se préserver les économistes dont j'ai parlé, c'est de la critique d'absence de réalisme. C'est-à-dire que l'hypothèse de recherche de l'intérêt, maximisation de l'utilité, parce qu'elle n'a pas vocation à être ancrée empiriquement, ne peut pas être balayée du revers de la main au motif qu'elle ne serait pas réaliste. La question... Et en coupant l'art, la science et la morale, on se protège en outre, puisqu'on explique bien que le modèle pur que l'on fait n'a pas vocation première de s'appliquer à la réalité. Et donc, en tout cas, certains peuvent s'y engager. Mais pas vocation. Donc, on peut très bien, a priori, faire des hypothèses, non pas irréalistes, mais des concepts purs, sans s'exposer à la critique de est-ce que ce n'est pas une vision partiale, particulière et non fondée. Vous voyez Et encore une fois, ce que j'ai constaté dans toutes mes lectures, c'est qu'il y a une vraie puissance. C'est que quand vous supposez ça, je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que mon avis là-dessus n'a aucune espèce d'importance. Simplement, quand vous supposez que l'agent maximise son utilité individuelle, ne recherche que son intérêt, vous avez des mécanismes, par raisonnement, hein, raisonnement logique, vous déduisez des mécanismes qui paraissent traduire l'essence des phénomènes que vous observez dans la réalité. C'est ça la puissance de la chose. C'est que, alors ça ne marche pas pour toutes les hypothèses, mais si les théories pures dont je viens de vous parler ont tenu aussi longtemps, près d'un siècle, c'est qu'elles avaient quand même un pouvoir, pas tant à prédire, pas tant à être conforme à la réalité, mais à nous permettre de reconstituer rationnellement l'univers qui nous entoure. Au motif que, encore une fois, le peu de physique que j'ai fait, j'ai compris les phénomènes physiques quand on a supposé la présence du vide. Bon, dehors, il y a des frottements. Il n'en demeure pas moins que lorsque je vois un objet chuter d'un immeuble, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention et que sa chute va se poursuivre sur ma tête. Bon, vous voyez, donc l'hypothèse de vide n'est pas raisonnable empiriquement, mais elle finit par nous donner un modèle qui a des conclusions qui nous permettent de rendre le monde intelligible tel que nous le voyons, même si ce n'est pas le monde réel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que ça a été ça la puissance du modèle.
Oui, donc l'histoire du vide et de la chute des corps, c'est qu'on sait que le frottement de l'air sur un caillou est très faible.
On pourrait vous objecter, c'est pas ce que je dis moi, mais je me mets dans la peau du contradicteur, que nous ne sommes pas tout le temps purement égoïstes, mais les tendances altruistes, bon, voilà.
Je voudrais vous signaler avant que vous partiez qu'il y a une permutation de conférences entre le 17 janvier et le 7 février.